RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui l'avocat Charles Consigny, le chef d'entreprise Emmanuel De Villiers et l'entrepreneur de la transition écologique Flora Guebali. Avec Flora, avec Emmanuel, avec Charles, on va accueillir maintenant notre invité.
RMC, face aux grandes gueules.
C'est Natacha Polony, l'éditorialiste, la journaliste Natacha Polony, qui est directrice de la revue L'Audace, qui publie après-demain, je crois d'ailleurs, La France corps et âme aux éditions Plomb. Bonjour Natacha Polony.
Bonjour.
On va en parler, mais depuis hier soir, on a un nouveau candidat à l'élection présidentielle. Son nom, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Et personne ne s'y attendait.
Non, mais c'est une surprise. Heureusement qu'on est encore assis, mais est-ce que c'est la bonne cette fois-ci ?
Non, mais...
Est-ce que ça peut être la bonne pour lui ?
Vous avez vu l'évolution de la vie politique ces dernières années. Je pense que les Français savaient très bien que Jean-Luc Mélenchon était candidat, puisqu'il a une manière de faire qui est assez simple, c'est-à-dire que il utilise les jeunes générations pour éliminer ceux qui, dans les générations un peu plus élevées, pourraient prendre sa place. Ça marche très bien, ça s'appelle du maoïsme. Mais le seul sujet, c'est quel est le projet pour la France et est-ce que c'est un projet qui rassemble ? Or, on a bien compris qu'il y avait là un processus de fracturation de la communauté nationale. Et c'est bien ça dont souffre la France depuis déjà longtemps. C'est-à-dire qu'on a des partis politiques qui ont acté le fait qu'ils étaient minoritaires, qui ne cherchent même plus à parler à la majorité du peuple français.
Et hier, il a dit qu'on peut être clivant et rassembleur.
Non, ils cherchent à s'adresser à un électorat précis, une part de marché, en élargissant un tout petit peu la part de marché dans l'espoir de se retrouver dans un second tour avec quelqu'un qui sera encore plus détesté en face. C'est ça que font les partis politiques aujourd'hui. Ça s'appelle une démocratie minoritaire, ce qui en fait ne fonctionne pas parce que ce n'est plus une démocratie, ça ne marche plus.
C'est-à-dire que dans un an, on va choisir forcément un président ou une présidente par défaut parce que ce candidat aura éliminé Bardella ou Mélenchon.
Mais c'est ce que nous faisons depuis des années. Et c'est bien pour ça que nous sommes dans une crise démocratique, un blocage total, que vous avez jusqu'à 50% du corps électoral qui décide de ne plus se déplacer dans certaines élections. Accessoirement, ce sont les plus pauvres, c'est-à-dire qu'on a réinventé le suffrage censitaire. On a fait en sorte que les plus pauvres n'aillent pas voter parce qu'ils ont intérioriser le fait que voter ne change plus la vie. Or, c'est le but de la politique. Changer la vie, c'était le titre du programme commun de la gauche dans les années 1970. Pourquoi ? Parce que c'est ça la définition de la politique. Et que tout a été fait dans le système politique pour que chacun de ceux qui sont candidats, qui veulent représenter, en fait, aient acté et accepté leur impuissance.
Est-ce qu'il aime la France, Jean-Luc Mélenchon, ou pas ?
Mais je me moque de savoir quelle France il aime. La nouvelle France, qu'est-ce que ça veut dire ? Pardon, mais la France, on doit la prendre dans sa totalité. C'est-à-dire que si on veut penser l'avenir de la France, il faut avoir intégré et aimé son histoire avec ses parts d'ombre, avec sa complexité. Et tout le principe, c'est de s'appuyer sur ce qui fait le substrat à la fois politique, idéologique, culturel de la France pour tout simplement proposer aux Français un récit, j'irais même plus loin, une épopée. On a besoin de retrouver un petit peu de souffle et de savoir dans quelle direction on veut aller. Et pour ça, il faut comprendre quelle est la spécificité de ce pays qui ne ressemble à aucun autre.
Mais la France corps et âme que vous aimez, hein, parce que c'est une déclaration d'amour à la France, ce livre.
Bien sûr.
C'est pas aussi quand même la France d'autrefois, la France idéalisée, la France effectivement des paysans, la France des campagnes, la France des clochers.
Pas. Ah non, parce que vous aurez vu que ça, c'est un chapitre du livre, mais qui est fondamental. Qu'est-ce que je raconte dans ce livre ? La France corps et âme, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce pays est un pays qui est à la fois charnel et spirituel. Charnel parce que nous sommes plus qu'aucun autre pays de la géographie transformée. C'est-à-dire que la géographie française, elle est très spécifique. Vous avez une diversité de climat, de géologie, comme vous n'en trouvez nulle part ailleurs sur un si petit territoire. Et ça a façonné une histoire et un corps social. C'est-à-dire que si la France a été puissante, c'est parce qu'elle avait une agriculture qui était extrêmement puissante. Or, jusqu'au 19e siècle, l'agriculture, c'est l'énergie. Puisque l'énergie, c'est la force manuelle, humaine et animale. Et pour ça, il faut les nourrir. C'est pour ça que nous avions la première armée d'Europe et donc du monde. Derrière, c'est aussi de l'industrie. Pourquoi ? Parce que la France est un pays qui, grâce à sa puissance, a pu penser des sciences, des techniques, les mettre en œuvre. Et c'est pour ça que nous avons été capables d'inventer aussi bien des avions, la fusée Ariane, oui. Tout ce qu'on veut.
Mais ça, vous me parlez du passé, Natacha.
Non, attendez. Est-ce que je peux terminer ?
Oui.
Je termine le raisonnement. Il y a cette dimension charnelle. Cette dimension charnelle est abîmée. Et il faut la reconstruire pour permettre justement de retrouver l'avenir. Et pour ça, il faut s'appuyer sur la production. Retrouver une capacité à transformer des sciences et des techniques en production qui nous rendent indépendants. Et derrière, il y a la dimension spirituelle. La France, par son histoire, a produit une vision de l'être humain, une vision du monde qui est très spécifique. C'est le peuple souverain. L'idée que nous sommes des citoyens, en dehors de toute loi divine et que nous décidons en commun de notre destin. D'où le pilier de la République, liberté, égalité, fraternité, qui est quelque chose d'extraordinaire. Or, là aussi, c'est malade, ce côté-là. On a arrêté de défendre ça. Pourquoi ? Parce qu'on a renoncé, tout simplement, à la souveraineté, c'est-à-dire à la capacité de gouverner, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc, si on veut inventer l'avenir de la France, il faut reconstruire ces deux piliers, c'est-à-dire produire et rétablir une véritable démocratie. C'est ça l'avenir de la France. Ça s'appuie sur les sciences, ça s'appuie sur la capacité d'invention, ça s'appuie sur la foi en notre modèle. Et moi, je crois que la majorité des Français croient profondément en ce modèle. Et d'ailleurs, toutes les études d'opinion le montrent.
Emmanuel de Villiers.
Alors, moi, j'ai trouvé votre livre de haut niveau. Il faut rappeler que vous êtes agrégé de lettres. Donc, vous êtes une intellectuelle accomplie. J'ai trouvé qu'il était puissant tant sur le plan dialectique que sur le plan didactique. C'est un livre qui s'intéresse à de nombreux sujets, qui représente un travail considérable, et j'invite nos auditeurs, s'ils veulent vraiment réfléchir à la situation de la France, à son passé, à son présent, à son avenir, à acheter et lire ce livre. Alors, ceci étant dit...
Oui, je vous en remercie.
Il a un petit côté idéaliste. Vous apparaissez quand même dans cette complexité intellectuelle, ce niveau qui est le vôtre, un peu comme torturé de l'esprit.
Ah bon ?
Et vous avez... ce fond de sauce insupportable dans tout ce bouquin de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est un vieux truc complètement suranné, auquel plus personne ne croit et qui nous a amené dans le mur. Alors vous venez de redire liberté, égalité, fraternité. Est-ce que les gens qui nous écoutent, ils pensent pas qu'il faudrait commencer à changer de devise pour avoir quelque chose qui correspond plus à la vérité
devise.
De la France?
Et tu prends avec quelle devise?
Je ne sais pas si c'est la Nouvelle France avec Monsieur Bagayoko qui décroche le portrait du président de la République, mais en tout cas, les rappels que vous faites permanents sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de 46, ça tout ça me paraît complètement dépassé. Ça m'a rappelé un dialogue fameux de Lino Ventura dans Un taxi pour Tobrouk. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'un con qui marche.
Qu'une brute qui marche. La vraie citation, c'est vont moins loin qu'une brute qui marche.
J'en veux pour preuve, et après je vous pose une question de manière positive. Parce que moi j'ai lu le livre, page 67, vous dites, je cite... Pour attirer vers le travail, contrairement à ce que propose une droite aux arrière-pensées de mépris de classe, il ne faut pas réprimer les tirs au flanc, il faut garantir un travail qui émancipe, qui grandit, et non un travail qui abétit et humilie. Je pense que les auditeurs qui nous écoutent, ils pensent le contraire.
Alors, ma question... Eh bien, moi, je ne crois pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Premier point, moi, je veux bien que vous estimiez que tout ça est suranné. Les hommes naissent libres et égaux en droit, est-ce que c'est suranné ?
Totalement.
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, est-ce que c'est un projet qui vous déplaît ? Je trouve que c'est plutôt une très belle façon de voir l'être humain.
Avec
l'échafaud
à côté.
Ensuite, vous avez choisi... Je vois pas le rapport avec l'échafaud.
La Révolution française, c'est l'échafaud, ce sont des crimes
sordides. Arrêtez ces clichés.
Bien sûr, on n'a pas tué le roi, on n'a pas tué la reine.
Alors, stop. Si on a tué le roi, je ne suis pas pour l'échafaud. Est-ce que on peut se lancer dans un débat sur la Révolution française et de savoir si ce sont les droits de l'homme et la vision de l'humanisme et des Lumières qui conduisent directement à la terreur, ou si ça y a eu une bifurcation à un moment? Je pense que vous pouvez me faire crédit du fait que entre Robespierre et Condorcet, j'avoue que Condorcet me plaît un petit peu plus, et il a fini en effet sur l'échafaud. Alors revenons aux droits de l'homme et du citoyen, parce que moi, ce qui me dérange, c'est que certains utilisent les droits de l'homme contre cette idée que c'est le citoyen qui permet l'accomplissement de ces valeurs. C'est pour ça que je parle de souveraineté, c'est pour ça que je parle de rétablir une véritable démocratie. Quand on s'assied sur des référendums, quand on empêche l'expression de la volonté des citoyens, alors on détruit tout l'édifice. Deuxième point, vous avez sélectionné le moment où je parle du travail et de la nécessité d'un travail qui permette de s'accomplir. Sauf que vous oubliez que dans tout le livre, le corollaire, c'est justement de rétablir cette valeur du travail et surtout de la production, parce que je crois que c'est la base d'une bonne politique.
Ça, tout le monde le dit, ça. Vous avez vu Bruno Retailleau. Non, mais Bruno Retailleau le dit. Et en général, c'est les candidats de droite qui disent on va remettre
vous avez
le travail au
Olivier
cœur
Truchot,
du projet.
Vous avez raison.
Sarkozy, en son temps,
vous avez raison. Aujourd'hui, tout le monde le dit. Il y a encore 2-3 ans, parler de souveraineté et de production, ça vous faisait passer pour le pire des ringards. C'est ça fait 20 ans que je me fais insulter pour ça.
Emmanuel Macron en parle dans tous ses discours maintenant.
Alors, maintenant, oui, c'est moi, je suis ravie des gens qui découvrent la Lune, tout à coup, et je leur dis « formidable ». J'accueille les convertis, c'est bien si vous avez enfin compris. Simplement, les mots, les slogans, c'est très bien. Voilà. La question, c'est le concret. Comment on rétablit une vraie politique de production en France ? Vous voyez que les paysans sont en train de crever, on continue à les tuer. Le traité de libre-échange avec le Mercosur, qui est une forfaiture absolue et qui rentre dans une logique où, en fait, on se moque complètement de savoir si on préserve la capacité de production sur place. Mais c'est vrai aussi de toutes les PME et ETI françaises qui sont en proie à une concurrence totalement déloyale, qui ont des normes qui alourdissent leur capacité d'action, et dans un cadre politique où on ne pense jamais à la façon dont on va créer de la richesse. Donc il y a des actions concrètes.
Pour que les salariés
par exemple,
soient mieux payés aussi.
Priorité à la production française dans la commande publique, définition de filières qui relèvent d'enjeux vitaux sur lesquels l'État doit absolument préserver justement l'outil productif français, capacité de formation, réflexion sur l'investissement. Nous sommes un pays qui a 6 250 milliards d'économies. Cette épargne, aujourd'hui, elle tombe dans des trous noirs comme l'assurance vie qui vont en fait vers des fonds américains. Et c'est-à-dire que nous finançons, notre argent finance l'économie américaine. Vous pouvez m'expliquer pourquoi tout ça est aberrant. Or, il y a moyen d'agir sur ces éléments-là. C'est du concret. On n'est pas en train de discuter de choses abstraites. Et c'est le pouvoir d'achat des gens qui est en jeu.
J'ai toujours été très sensible à votre discours souverainiste parce que je partage vos convictions et que vous avez commencé à tenir à une époque où vous étiez vraiment pas nombreuses à se compter sur les doigts d'une main. Donc félicitations pour ça parce que maintenant tout le monde vous donne raison de l'extrême gauche à l'extrême droite. Du coup, il n'y a pas d'évidence pour 2027 et votre livre est très politique. Est-ce que vous y pensez à faire de la politique ?
Alors,
est-ce que vous vous préparez pour la présidentielle ?
Premier point, je ne me suis jamais dit souverainiste. Pourquoi ? Parce que c'est un terme que les gens ne comprennent pas, qui a été dévoyé totalement. Je défends l'idée de la souveraineté, c'est-à-dire la définition même de la démocratie. Je suis tout simplement démocrate. Le titre 1 de la Constitution de 1958, c'est de la souveraineté. Article 3, la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par l'intermédiaire de ses représentants et alors, par le référendum.
Mais aujourd'hui, qui a le pouvoir aujourd'hui ?
Alors, juste...
Pour comprendre bien, parce que...
Oui, qui a le pouvoir aujourd'hui ? Après, je réponds à votre question. Qui a le pouvoir aujourd'hui ? Eh bien, depuis plusieurs décennies, en fait, petit à petit, on a fait en sorte de contourner les instances démocratiques par des instances supranationales, que ce soit l'OMC, que ce soit tous les accords de libre-échange, en fait, qui empêchent les citoyens de chaque pays de décider réellement la politique qu'ils veulent. L'Union européenne a été détournée de son sens, puisqu'au départ, je rappelle que 1957, le traité de Rome, ça repose sur l'idée que entre 6 pays qui ont des économies à peu près homogènes, on va faire un marché commun dans lequel on appliquera la préférence communautaire. C'est-à-dire qu'en gros, on s'échange nos excédents, donc on libéralise à l'intérieur, mais on protège à l'extérieur. Ça, au fur et à mesure, ça a été totalement bouleversé jusqu'à l'acte unique de 1986 qui, en gros, institue la libre circulation des hommes des marchandises. Aujourd'hui, on est la zone économique au monde la plus ouverte, c'est-à-dire qu'on met nos systèmes en concurrence avec des pays. Regardez par exemple la Turquie. Le SMIC en Turquie, c'est 475 euros. la Turquie, depuis le traité de libre-échange de 1996 avec l'Union européenne, est économiquement de fait dans l'Union européenne. Donc comment voulez-vous que nos entreprises s'en sortent ? Regardez l'entreprise Brandt qui fait de l'électroménager. Vous allez dans une boutique d'électroménager, vous voyez que l'électroménager turc, évidemment, est dominant. Pourquoi ? Bah, avec un SMIC à 475 €, comment vous voulez que ça marche ? Donc il y a un moment où il faut faire des choix. C'est-à-dire, si on veut préserver un modèle social, il faut faire en sorte de ne pas se mettre en concurrence avec des gens qui ne...
Préserver ou changer ce modèle social ?
Alors, ce modèle social, aujourd'hui, on voit qu'il ne fonctionne pas. Non mais attendez, oui, il ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il y a des choses à réformer. Mais est-ce que votre but, c'est d'avoir le modèle social turc ou le modèle social chinois ou vietnamien ? Voilà, je ne pense pas. Donc,
il y a d'autres modèles en Europe.
Oui, qui sont meilleurs. Mais est-ce que vous voulez le SMIC roumain ? Est-ce que vous voulez le SMIC roumain ?
Moi, je ne pense pas. Bien les salaires suisses, par exemple.
Donc, c'est toute la question. Quand Edouard Philippe, il dit, il faut qu'on soit compétitif, il faut qu'on puisse concurrencer la Chine. Ça n'a aucun sens.
Non, ça n'a aucun sens. Nous avons un problème gigantesque. Nous avons d'un côté une droite qui ne voit que les problèmes de compétitivité et de normes et qui ne voit pas que nous nous sommes mis dans un système de concurrence qui détruit, qui est une concurrence déloyale. C'est le contraire du vrai libéralisme et qui détruit petit à petit nos entreprises. Je vous cite un exemple. Vous avez des fabricants de pompes à chaleur qui se battent pour produire en France, qui créent de l'emploi, de la richesse en France, qui financent le modèle social, qui financent les retraites. Eh bien, ces gens-là, quand ils vont à Bercy pour dire, écoutez, l'État donne des primes pour ceux qui achètent des pompes à chaleur, sauf que les gens achètent des pompes à chaleur chinoises parce qu'elles sont moins chères, alors même que les entreprises chinoises sont subventionnées par l'État chinois. On fait comment ? Et là, on leur répond à Bercy, mais c'est que vous n'êtes pas assez compétitif. Mais s'ils étaient subventionnés par l'État, comme le sont
comme
les entreprises chinoises,
le bonus écologique qui profitait aux voitures chinoises à un moment donné.
Et donc, jusqu'à quand allons-nous utiliser les impôts des Français pour subventionner des entreprises étrangères pour détruire notre propre tissu économique, c'est-à-dire les retraites et la sécurité sociale des citoyens ?
Et après, il faudra qu'elle réponde sur la présidence.
Et après, je réponds.
Le rôle en 2027.
Heureusement, on la garde.
Alors, Natacha, quel rôle pour 2027 ?
Candidate ?
Je ne sais pas. Je vais vous dire une chose. De plus en plus de gens me posent la question. Moi, je me balade partout en France et honnêtement, oui, je suis frappée parce qu'on m'en parle. Et je vais vous dire pourquoi on m'en parle. Tout simplement parce qu'on est tous absolument effarés du niveau global que des candidats aujourd'hui, de l'absence de réflexion.
Il n'y a que des mecs qui se présentent.
Et donc, oui, et donc
vraiment,
on est ensemble parce que vous pensez la même chose depuis longtemps et c'est très rare aujourd'hui.
Oui. Bah, parce que j'ai une cohérence et que, hélas, la politique française aujourd'hui manque de cohérence. Nous avons besoin d'un récit, d'une architecture. Alors après, c'est pas un jeu, c'est pas un hobby, tout ça. C'est pas une plaisanterie.
15 millions d'euros.
Donc, c'est quelque chose qui est une responsabilité absolument gigantesque. Donc, et pour le coup, pour avoir réfléchi à toutes ces choses-là depuis des années, analysé la politique depuis mon point de vue qui était celui d'une journaliste, d'une commentatrice, je sais ce que ça signifie. Et j'ai trop vu la déception des gens face à des discours, à des slogans que je trouve insupportable.
Vous restez
donc
avec
ça
nous.
N'est pas une blague.
On va continuer d'en parler.
Donc
on
vous y réfléchissez.
Donc je suis frappée par le fait que des gens de tous milieux sociaux, de toute origine, me posent la question et me disent il faudrait vous engager.
Et vous auriez envie ?
Non mais c'est pas une question d'envie
parce que
pas un plaisir.
Alors on va continuer d'en discuter parce que
j'ai des choses à dire.
Bien sûr, tu as des choses à dire, Natacha Polonici. Il faudra parler aussi carburant.
Oui,
notamment
bien sûr.
Parce que ça c'est le grand débat politique du moment. Mais on a Olivier qui est avec nous, Olivier des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Bienvenue parce que c'est vous le gagnant, les gagnants des vacances Bellambra, mon cher Olivier.
Super, merci beaucoup, c'est très gentil.
Félicitations, je vous en prie, c'est vous qui avez envoyé vacances par SMS au 732-16. Vous gagnez donc le séjour d'une valeur de 2 000 € dans les clubs et hôtels Bellambra. C'est le tout compris premium et vous choisirez votre destination, mon cher Olivier.
C'est très gentil, merci beaucoup.
Je vous en prie, on joint en bonus un t-shirt des grandes gueules pour vous aussi, Olivier.
Les nouveaux qui arrivent.
Ouais. À très bientôt, mon cher Olivier. Félicitations.
Gagnez vos vacances sur RMC avec Bellambra. Bellambra Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
Natacha Polony, la France corps et âme aux éditions Plon. Natacha Polony est avec nous, suite de l'entretien dans un instant.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les Gigi, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, c'est Natacha Polony qui est avec nous, la France corps et âme aux éditions Plon. La France, elle a du mal à faire son plein d'essence en ce moment. Est-ce qu'il faut en demander plus à Total ou pas, Natacha Polony?
Le problème qu'on va avoir là dans les années à venir, plutôt dans les mois à venir, c'est la question de la distinction entre le court terme, le moyen terme et le long terme. Sur le court terme, on va avoir une crise, on va avoir une inflation cet automne et peut-être même des problèmes d'approvisionnement. Il faut bien comprendre que le détroit d'Ormuz, c'est pas seulement le pétrole, c'est aussi le soufre, par exemple, qui est issu du raffinage du pétrole et qui sert dans tout, c'est-à-dire dans le cuivre, la fabrication du cuivre, du nickel, des microprocesseurs. Donc si le détroit d'Ormuz n'est pas ouvert très rapidement, on va vers des difficultés gigantesques. Donc le problème, c'est que ce sont les plus fragiles qui vont payer, c'est-à-dire ceux qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller bosser. Et comme on n'a rien prévu, puisqu'on n'a pas assuré la souveraineté, c'est-à-dire l'indépendance dans les domaines absolument essentiels, eh bien, on se retrouve face à un cataclysme. Donc, face à ça, que faut-il faire? Surtout pas uniquement du court terme. Pourquoi? Parce que sinon, à la prochaine crise, on se retrouve dans la même situation et surtout, on continue à s'enfoncer. Donc, il faut protéger les plus fragiles. Je donne un exemple, les aides à domicile. Leur indemnité kilométrique n'a pas été révisée depuis des années. Donc, ces gens-là qui n'ont pas choisi de travailler avec leur voiture, il faut les aider, il faut cibler. En revanche, dans le même temps, il faut absolument mettre en place à la fois un véritable plan de décarbonation. Pour ça, il faut garantir une énergie électrique, c'est-à-dire décarbonée et peu chère. Mais pour ça, il faut se battre à l'échelle européenne pour que notre nucléaire puisse être garanti. Il faut revenir sur les volontés de la Commission européenne de donner notre énergie issue de nos barrages hydroélectriques à des faux concurrents, c'est-à-dire qu'on est en train de faire sur l'hydroélectrique ce qu'on a fait sur le nucléaire et sur l'ensemble de la politique d'EDF. C'est-à-dire qu'on a créé des faux concurrents à EDF qui ne produisent rien juste parce qu'il fallait de la concurrence. Tout ça est stupide. J'ajoute un point, c'est que la fixation du prix de l'électricité à l'échelle européenne est une aberration, c'est-à-dire qu'on fait tout pour empêcher la France de bénéficier, pour ses entreprises, de son avantage compétitif. Par exemple, quand le prix de l'électricité est très faible en France, puisque nous avons du nucléaire, et que le prix est très élevé en Allemagne, où ils ont du charbon qui pollue d'ailleurs, qui pollue toute l'Europe, et des énergies renouvelables, eh bien en fait, la France, quand elle vend son électricité à l'Allemagne, n'empoche pas la différence. EDF n'empoche pas, ce n'est pas le producteur qui empoche la différence, ce sont les réseaux, et de telle manière qu'en fait, ça équilibre les prix. Donc vraiment, tout est fait pour qu'on ne puisse pas bénéficier de nos investissements. Bref, il faut mener une politique qui défend le pouvoir d'achat à court terme et à long terme des Français par cette électricité peu bon marché, donc avec un opérateur qui soit un opérateur piloté par l'État. Et il faut avant tout investir dans une politique de production parce que c'est ça qui nous permettra d'encaisser les futurs chocs. Donc, mettre l'ensemble de l'énergie de la puissance publique sur cette préservation de ceux qui produisent sur le sol français.
Charles, je trouve ce propos très intéressant. J'aime bien cette idée selon laquelle la France est à la fois un corps et une âme, un corps de par ses territoires, sa géographie particulière, sa cuisine qui ne va pas sans son territoire, et une âme par les idées qu'elle défend depuis toujours et sur lesquelles elle a été à l'avant-garde au cours des siècles. J'aime bien aussi, il y a quelque chose d'assez Finkielkrautien dans votre approche de l'éducation et dans votre espèce de désarroi face à cette jeunesse qui manifestement a le cerveau qui fonctionne mais qui sait plus lire.
Il n'y a pas de désarroi. Il y a une colère face au fait qu'on leur ment. Ça oui.
Oui, mais vous racontez par exemple un moment où ils sont très émus en écoutant Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo.
Oui, mes élèves que j'avais eus quand j'ai enseigné à Épinay-sur-Seine. Et donc des élèves issus vraiment de toute origine et à qui j'ai fait étudier Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo parce que c'est pas évident, hein, mais quand il y a la volonté, on y arrive. Et on arrive à transmettre ça parce que je considérais que c'était leur héritage à tous.
Et ils se sont passionnés pour ça, ils ont aimé.
Oui. Bon.
Donc tout ça, je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est très intéressant sur le plan, disons, analytique. Mais je pense que ça appellerait un tome 2, disons, sur lequel peut-être que vous travaillez déjà, sur, en gros, la projection. On est d'accord sur tout ça, ce constat, etc. C'est, voilà. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait au-delà des
mais
ajustements
Mais si vous avez lu les trois derniers chapitres, vous voyez que oui, ça n'est que de la projection.
Oui, mais je trouve que vous êtes un peu, pour le coup, là, il y a un peu de technocrate en vous, étrangement, alors que vous n'avez pas fait l'ENA.
Ah, c'est la première fois qu'on me le fait.
Ben oui, même là, ici, vous parlez des barrages hydrauliques,
etc. Oui, il faut pas.
Qu'il y a un auditeur sur deux qui décroche. Non, mais je vous dis pas que c'est pas intéressant.
Vous pensez que les auditeurs de RMC ne peuvent pas s'intéresser à ça?
Moi-même, j'ai décroché sur une partie, donc je vous dis les choses comme je les ressens. Je pense que vous avez quand même un petit côté techno.
C'est d'ailleurs étonnant
parce que vous admirez en fait le panache français, vous parlez de la littérature qui est indissociable de notre pays, on sent que c'est sincère cette démarche de votre part. Vous aimez ça. Mais les grandes périodes de l'histoire de France, c'est des périodes de projection qui vont très au-delà des ajustements.
Si je peux répondre, c'est
Louis XIV qui construit Versailles.
Non, alors Charles.
C'est Napoléon qui change absolument tout. C'est De Gaulle qui change absolument tout. Je pense qu'on aurait besoin de
Louis XIV qui construit Versailles, c'est le contraire de la projection française. Pourquoi? Louis XIV a laissé la France dans un état bien pire qu'il ne l'a trouvé. Ce que je cite dans le livre, c'est Henri IV. C'est Henri IV qui réconcilie la France. C'est Henri IV qui se projette. Et derrière, il y a Colbert. Oui, mais pas Louis XIV. Colbert. C'est Colbert qui prévoit, qui fait en fait de la planification. C'est-à-dire qu'il plante des chaînes parce qu'il a prévu qu'il fallait avoir une marine.
Eh bien, vous
avez lu le livre, donc vous savez que j'en parle. Donc, au contraire, ce livre, c'est une façon d'utiliser l'histoire de France pour se projeter. C'est-à-dire, ce qu'a fait Colbert, c'est de la planification. C'est ça que nous devons faire à l'échelle contemporaine.
Oui, mais je trouve qu'il vous manque un peu un concept
tournant vers l'avenir. Mais il est là, le concept global. Production, souveraineté. Oui. Le concept global, c'est de dire, et je vais vous le simplifier si vous voulez bien, je vais essayer de pas être trop techno, même si je suis convaincue, parce que je suis profondément démocrate, que les citoyens comprennent parfaitement toutes ces problématiques-là. J'ai une entière confiance en la capacité de jugement des citoyens de quelque milieu social qu'ils soient. Donc, je termine. Qu'est-ce que c'est le cœur de ce livre, sa thèse? C'est de dire que il faut produire pour retrouver notre indépendance, c'est-à-dire notre liberté. Qu'est-ce qui fait que nous allons pouvoir survivre dans un monde qui est un monde de plus en plus brutal et violent, où nous sommes lancés dans une guerre de matières premières? Parce que c'est ça qui se passe. Ce qu'est en train de faire Donald Trump dans le détroit d'Hormuz, ce que font les Chinois, c'est une guerre de matières premières. Or, dans ce cadre-là, l'Europe a arrêté de penser en termes d'indépendance. Donc si nous voulons ne pas être esclaves dans les décennies qui viennent, il faut produire sur notre sol, il faut penser les chaînes d'approvisionnement de façon à ce que nous puissions avoir tout ce qui va nous permettre de vivre sans dépendre des autres. Oui. Le premier point, c'est l'énergie. Derrière, c'est l'alimentation. Ensuite, l'industrie.
L'État n'a plus un rond, on ne peut plus planifier.
Non, mais l'État n'a plus un rond parce que ça fait 20 ou 30 ans qu'on a des politiques qui se contrefichent de ces questions d'indépendance.
On ne peut plus planifier, donc, on en est à savoir si on peut payer les salaires.
Donc, cher Emmanuel de Villiers, la question de l'argent, il y en a. 6 250 milliards d'épargne qui va abonder l'économie
des Français. Mais ceux qui nous écoutent ne vont pas être d'accord.
Non, ce n'est pas ça. C'est pas prendre l'argent. C'est faire en sorte que cet argent soit productif. C'est ensuite nettoyer la dépense de l'État parce qu'il y a des gouffres financiers, parce qu'il faut absolument, par exemple, réviser le millefeuille territorial, faire en sorte d'arrêter d'avoir une administration absolument pléthorique. Tout ça, ça doit être fait, mais en parallèle, si vous ne recréez pas de la richesse en produisant sur le sol français et donc en favorisant les entreprises qui produisent ici plutôt que celles qui importent ou qui s'enrichissent en ruinant l'industrie et l'agriculture française, alors vous ne vous en sortez pas.
Ça n'a l'assentiment de personne que si on repasse pas aux 39 heures sans augmenter les salaires, on ne peut pas redécoller. J'ai dirigé 6 entreprises depuis 40 ans dans plein de secteurs différents.
Moi aussi, je
peux vous l'affirmer, on ne décollera jamais si on n'augmente pas le temps de travail sans augmenter
rencontre tous les jours. La question, si vous faites ça sans penser le reste, c'est-à-dire l'ensemble de l'organisation permet de flécher l'argent vers la production française, ça ne suffira pas. Vous ne pouvez pas vous mettre en concurrence avec des pays qui ont un SMIC qui est deux fois, quatre fois inférieur au nôtre, si vous ne limitez pas, en quelque sorte, cette concurrence. Regardez, par exemple, je prends le cas de Shein. Shein est une entreprise qui ne rapporte aucun impôt, aucune taxe, aucune cotisation sur le sol français. Donc, le fait d'avoir laissé s'installer ce genre de plateforme, d'avoir fait en sorte de leur faciliter la vie en ouvrant les ports européens à des petits colis et en aidant même, c'est-à-dire que c'est fabuleux, la Poste considère que la Chine est encore un pays en voie de développement et donc jusqu'à récemment, nous avions des subventions pour les petits colis chinois. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, baisser les salaires en France, tout ce que vous voulez, ça ne changera rien à ça si vous ne réglez pas le problème de fond qui est celui d'une concurrence déloyale. Et accessoirement, il faut dire aux Français, quand vous achetez chez Chine, eh bien, vous votez pour un système qui va vous demander de travailler jusqu'à 70 ans parce que, en fait, vous faites travailler des entreprises qui ne payent pas les cotisations, qui n'abondent pas notre système social. Mais c'est pas tout, c'est pas les consommateurs tout seuls qui vont régler le problème. C'est un problème politique. C'est à la puissance publique de faire en sorte que l'argent des Français abonde le modèle social français.
Merci, Natacha Polony. La France, corps et âme aux éditions.
Vous reviendrez pour vos déclarations de candidature dans les grandes gueules.
Merci.
Meilleur endroit pour se déclarer candidat. Hein.
Merci d'être passé par les GG. Dans un instant, dernier petit sujet de discussion avec vous au 32-16. Ne pas travailler en cas d'événement météo contraignant, un congé climatique de 5 jours par an, sont les écologistes qui le proposent. À tout de suite avec les GG, il est midi moins 25.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous êtes avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, avant de retrouver dans 10 minutes Estelle Denis et toute sa bande pour Estelle Midi, pour continuer la discussion avec Flora Guébal, Emmanuel Deville et Charles Consigny. Maintenant, nos trois GG, on va s'intéresser à ce congé climatique. Marine Tondelier, qui est la patronne des écologistes, qui veut la création d'un congé climatique 5 jours par an, congé payé climatique.
Oui, ce droit nouveau permettrait aux travailleurs de ne pas se rendre au travail en cas d'événement climatique extrême, et ce, sans être financièrement pénalisé. En fait, elle veut s'inspirer du modèle espagnol mis en place après des inondations meurtrières en 2024. À l'époque, plusieurs entreprises avaient été vivement critiquées parce que elles avaient maintenu leurs salariés au travail, alors qu'il y avait une alerte rouge météo et il y avait plutôt un danger à se déplacer, à prendre sa voiture pour aller travailler. Et donc en réponse, à l'époque, le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez avait approuvé un congé climatique de 4 jours, alors c'est un peu moins que Marine Tondelier, Tondelier a dit 5 jours, payé par l'État, auquel peut succéder une période de chômage partiel. À partir du moment où une autorité, quelle qu'elle soit, indiquera qu'il y a risque dans les déplacements, les salariés devront s'abstenir d'aller travailler, une sorte de confinement payé par la société. Est-ce que c'est une bonne idée, ce congé climatique ?
On ne pourra pas dire qu'Anna Marchal et Olivier Truchot n'ont pas le sens du crescendo, parce que là, comme sujet, c'est vraiment le bouquet final. Madame Tondelier est devenue tellement inaudible qu'elle est obligée de frapper de plus en plus fort pour tenter d'attraper l'opinion. Mais là, elle va sur quelque chose qui n'a aucun sens économiquement ou socialement. J'ai eu l'honneur de diriger 6 entreprises, deux par CATEM, le Puy du Fou et le Futuroscope, et 4 entreprises industrielles dans des secteurs différents. Alors je peux parler des situations de canicule ou des situations d'exploitation difficiles en lien avec les salariés. Les entrepreneurs français qui nous écoutent, les commerçants, quelle que soit leur activité, ils n'ont pas besoin des objurgations de Mme Tondelier pour trouver des solutions. Les solutions, déjà la loi oblige par exemple à mettre de l'eau à disposition, comme si les patrons, je vais faire un peu du Charles Consigny, allaient laisser crever de soif leurs collaborateurs. La loi a obligé à mettre des bouteilles d'eau à disposition en cas de température, je crois, supérieure à 25 degrés.
Ça existe déjà, notamment dans le BTP.
Les salariés, par exemple, dans les entreprises industrielles, c'est eux-mêmes qui sollicitent leur hiérarchie pour adapter les horaires et travailler, comme on dit en bon français, à la fraîche. Donc, on n'a pas besoin des politiques en la matière. Et quand les locaux sont très chauds, on met éventuellement des ventilations, on autorise un dérèglement des tenues qui peut aller jusqu'aux shorts ou des choses vraiment très 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 estivales pour la canicule.
Ça laisse tout faire dans les entreprises, ouais, pas besoin de se congé.
Voilà, tout ça n'a aucun sens. Et être représentant politique et aller sur ce type de proposition, en prenant un faux exemple étranger, car tu l'as dit, c'était dans le cadre d'une crise ponctuelle et sur quelques entreprises, en prétendant qu'il y a une référence à développer, c'est pitoyable.
Flora.
J'aurais pas proposé cette idée pour remettre l'écologie sur la table, parce que déjà ça existe déjà, il y a des confinements écologiques en Inde quasiment chaque année malheureusement, et ils durent de plus en plus longtemps, tout simplement parce que l'air est irrespirable en Inde certaines semaines dans l'année. Et il y en a eu aussi en Espagne, et évidemment qu'en France, s'il y a des inondations ou une grosse canicule, il faudra qu'on fasse des efforts. Ceci étant dit, le sujet est très intéressant, puisque dans les années à venir, par exemple, les ouvriers de chantier, il y a une étude Paris 2050 qui montre qu'ils pourraient faire canicule sur 2 mois consécutifs d'été à Paris. 2 mois, c'est pas 2 jours. 2 jours, il y a une inondation, bon bah on fait un effort. Ce qui est intéressant, c'est de calculer combien ça va coûter à la collectivité de mettre à l'arrêt l'économie pendant 1 mois, 2 mois, comme le Covid. La France est complètement amorphe économiquement à cause du Covid et à cause du quoi qu'il en coûte. Si il faut se préparer à un confinement écologique chaque année dans les années à venir, imaginez que pendant 2 mois on soit tous à l'arrêt. Notre système est intenable, insoutenable. Et c'est exactement le même sujet que le pétrole à Hormuz, c'est-à-dire que on se prépare pas aux vulnérabilités de notre système. Donc l'idée de fond, elle est bonne, c'est-à-dire il faut se préparer aux vulnérabilités. Sur la forme, dire encore des congés payés, encore 5 jours, je pense que c'est inaudible et que c'était pas la bonne idée. Ceci dit, Jean-Marc Jancovici proposait à l'époque du Covid de mettre déjà en place un confinement écologique, parce que je ne sais pas si vous savez, mais en 2020, on a respecté les limites planétaires. C'était la seule année depuis les dernières décennies
on a respecté en
arrêtant tout. Et donc aujourd'hui, on en est à un stade où on risque tellement gros qu'il faudrait se mettre à l'arrêt 2 mois par an.
Charles Consigny, tu es pour, j'imagine, ce congé payé climatique?
Non, mais on est au cœur de la névrose française. Moi, ce qui me frappe, c'est vraiment cette... Pardon ?
En Inde, ils le font.
Oui, bien sûr, mais comparons la France et l'Inde. On est vraiment 2 pays comparables, donc c'est un bon indicateur. Je constate une espèce de haine du travail chez un certain nombre de gens aujourd'hui, chez un certain nombre de responsables politiques, de journalistes, de jeunes. Il y a un tas de gens qui vraiment détestent le travail et qui essayent par tous les moyens de l'éviter, de l'interdire, de permettre qu'on puisse s'y soustraire ou de le spolier. Voilà, c'est une espèce de détestation comme ça, et une ambiance. Moi, j'ai déjà vu effectivement des bureaux de poste où il y avait écrit fermé pour cause de grosse chaleur, par exemple. C'est trop chaud, donc on vient pas travailler. Franchement, je pense que ça se passe même de commentaires, à vrai dire, cette proposition. Il y a beaucoup de pays dans le monde très performant où on travaille même par temps très chaud, aux Émirats Arabes Unis par exemple. Alors oui, c'est vrai, ça implique de climatiser les bureaux, voilà. Mais ça, les bureaux climatisés, ils existent même à Paris, fort heureusement d'ailleurs. Les magasins climatisés, tout ça, ça existe. Je pense que si on prend la pente voulue par Madame Tondelier, le problème, disons les choses comme elles sont, si demain on met en place toutes les idées de Madame Tondelier, mais en un an, la France devient un pays du tiers-monde. Il faut dire les choses comme elles sont. Si tu mets en place le programme de Tondelier, en un an, la France est un pays du tiers-monde. Donc, je trouve que c'est des conneries, honnêtement. Ça se passe de commentaires.
Non, mais tu as raison, Flora, de dire qu'il va falloir s'adapter à ces chaleurs, ces fortes chaleurs, ça c'est vrai. On le voit bien, même quand on se dit, est-ce qu'il faut continuer à faire passer les examens en fin d'année pour les élèves, le bac au mois de juin, alors qu'il y a maintenant une canicule qui est chaque année. Oui, mais le problème, c'est que la réponse, c'est la réponse de Madame Tondelier, parce que déjà, elle ne nous dit pas comment elle finance. Moi, je trouve que les hommes politiques, les responsables politiques, qui mettent en avant un nouveau droit social et qui ne sont pas capables de nous dire comment on le finance, ne sont pas crédibles. Je veux dire, elle n'est pas crédible. Dans un pays endetté, on peut pas dire on va vous donner un nouveau droit, mais alors le financement, on verra. C'est pas possible. Ça, c'est vraiment une question de crédibilité, même d'intelligence pour les gens qui écoutent. Parce que les gens qui nous écoutent, ils se sont dit bon, très bien, mais comment on va payer ces congés? C'est
mais
la première.
Mais en plus,
deuxième chose, je suis pas sûr que le non-travail soit l'adaptation au monde.
Bah non.
Il va falloir qu'on vive.
On va faire quoi? On va fermer les magasins.
Mais si on ne travaille plus,
oui, enfin, le dérèglement climatique, s'il est à 3 degrés ou à 5 degrés, c'est pas la même chose.
Le modèle social que chérit sans doute Marine Le Pen, il est mort. Donc en fait, tout ça n'a pas de sens. En fait,
on va fermer les magasins au mois d'août parce qu'il fait trop chaud. C'est tirer une balle. Non, mais on fera peut-être comme dans les pays chauds. Vous allez par exemple, je sais pas, en Grèce, en Grèce ou en Espagne,
les pays. On décale les horaires.
Bien sûr, les magasins sont fermés en début d'après-midi, ça rouvre vers 16-17 heures. Et en revanche, c'est ouvert plus tard. Mais ça, il faudra qu'on accepte en France qu'un magasin puisse être ouvert au-delà de 21-22 heures. Oulala, un magasin ouvert le soir, quelle horreur. Ça, Tondelier va pas l'autoriser. Hein. Elle va, non. Donc bon, franchement, on peut dire que c'est con quand même. Moi, je trouve qu'on a le droit de dire que c'est con. C'est une idée conne. Il faut dire les choses comme elles sont.
Des idiotes.
Ouais, enfin,
bête.
Idiote, si tu préfères. Ouais, c'est stupide. C'est une idée stupide.
Voilà. Pas la mesure qui n'a pas de sens, on va dire même. Qui n'a pas de sens. Mmh. Voilà, on va dire ça comme ça. Eh bien, c'est sur ce jugement définitif de Charles Consigny que nous terminerons les GG. Est-ce que vous êtes pour un congé payé climatique, oui ou non? Qu'en dites-vous? Attention, 3, 2, 1, 0. Congé payé climatique, non à 83%. La discussion et le débat continuent avec Estelle Denis. Bonjour ma chère Estelle.
Salut Alain, salut les GG, on va en parler évidemment nous aussi de ce congé climatique. On en parlera à 13h30 avec toute la bande du jour. Charles Magnin, Jérôme Lavrieux, Baptiste Desmontiers et Élise Goldfarb. Mais avant cela, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Emmanuel Macron, il fait un peu sa tournée d'adieu. Hein, le président de la République, à chaque fois c'est sa dernière fois. Ce sera son dernier 14 juillet et il veut organiser un défilé XXL grandiose. Le plus grand défilé militaire du 14 juillet que la France a jamais vu.
Il y a un sous-marin dans la Seine, normalement.
Ah oui, bah écoutez, oui, ce sera pas ça, mais
c'est une blague.
Non, mais ça j'entends bien. Mais en tout cas, le plus grand défilé jamais vu sur les Champs-Élysées, pour ou contre voilà, cette volonté d'Emmanuel Macron. On en débat dans un instant avec vous. Vous nous dites tout au 32-16. On va parler également de cette proposition de Charles Alloncle, le rapporteur de la commission sur l'audiovisuel. Lui, il veut supprimer la plupart des jeux sur France Télé. Il y en a quand même 9 sur France 2 chaque jour. Des jeux télé, Fort Boyard, N'oubliez pas les paroles, Slam, y a-t-il trop de jeux sur France Télé?
Et des jeux.
Hein, oui, exactement. Là, il y a surtout des jeux. Vous nous dites tout à 12h30 et puis à 14h. Ça doit te parler, Flora. Les jeunes qui se passionnent pour le tricot, la poterie, la céramique ou encore le crochet, est-ce que vous trouvez ça déprimant, voilà, que les jeunes aujourd'hui fassent ce type de loisirs?
Génial. 200 000 Français se sont reconvertis dans les métiers de l'artisanat. Oui. Ça, on n'en parle pas sur les plateaux télé, alors que les Français veulent aller vers le travail manuel, des choses qui ont du sens et pas des bullshit jobs. On devrait être heureux.
Oui, d'accord, après, mais là, c'est un loisir. Ah oui. Avant, nous, on allait en boîte de nuit. On s'éclatait et maintenant ça fait du tricot.
Mais on
quoi.
Peut faire les deux, on tricote la journée et on sort la nuit. Et on va en rave party sur des camps
militaires
la nuit.
Tricoter.
Non mais voilà. Bah oui, c'est pas les mêmes. Hein. J'ai vu quelques images. C'est pas ils tricotent pas, hein, ceux qui sont sur les rave parties.
Ils trompent pas, c'est pas cher.
J'avais un avocat d'affaires qui s'est reconverti comme ébéniste. Bah, j'ai préféré pas voir la gueule du meuble.
Mais excusez-moi, mais vous faisiez quoi à 20 ans? Qui faisait du crochet ici? Personne. Enfin, Alain.
Non.
Vous faisiez autre chose?
Moi aussi.
Moi je faisais un crochet vers la
excusez-moi, c'est pas en faisant du tricot qu'on va réarmer démographiquement la France.
Et si,
oui,
parce que on va rétablir notre souveraineté et ça c'est la meilleure arme
avec le tricot.
Puisque au lieu d'acheter chimie, on va s'ouvrir des pulls.
Bah dis donc, il va falloir un an pour avoir un t-shirt.
Et bah, 20 secondes.
Ils tiendront 30 ans.
Coquillettes ou spaghettis? Eh ben, spaghetti. C'est pas facile.
Spaghetti.
Mais oui, mais les coquillettes c'est régressif.
Spaghetti.
Non, spaghetti. Spaghetti.
Charles, allez à table et
coquillettes ou spaghettis.
Spaghetti.
Voilà. Allez, on a plié le match. Bonne émission avec Estelle carbonara. 16 en direct jusqu'à 15h.
Du vrai lard.